Donc, c'est ça, Vincent, je disais avant que l'Internet plante, mais ça, les auditeurs ne le savent pas, c'est la magie du montage, sauf quand tu commences en le disant. J'étais en train de dire qu'on allait être deux aujourd'hui parce que Yann nous a abandonnés pour des motifs qui sont encore nébuleux. En fait, je pense que Yann aussi déménage. Je pense que toi aussi, tu vas déménager dans pas long à cause que tu changes d'emploi, c'est ça?
Oui, je change de pays surtout.
Oui, c'est ça. Ben oui, ben oui. Tu vas chez l'oncle Sam, comme disent.
Ouais, un petit peu, pas mal, beaucoup même.
Pas mal, beaucoup. Ouais, donc c'est ça. Ben, l'avantage en étant trois comme ça, c'est qu'on peut, si quelqu'un ne peut pas faire le podcast quand même, puis ben, aujourd'hui, on va essayer peut-être de faire ça plus court, vu qu'on est deux, pour éviter qu'il y ait peut-être des longueurs. Mais en tout cas, ça reste aux auditeurs, même si l'autre fois, on a fait quoi deux? Le dernier qui est sorti sur YouTube, il durait presque 2 heures, puis il a été, je pense, c'est un des plus écoutés à venir jusqu'à présent. Donc,
ouais, je pense que parce que c'est celui sur lequel on parle de cancel culture puis tout ça, là.
Ouais.
Ça attire un petit peu plus l'attention, ce sujet-là.
Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs sujets là, qui traitent de. Quand c'est un peu plus social, entre guillemets, là, les gens, ils ont un intérêt peut-être plus naturel avec ça. Puis en même temps, c'est sûr que c'est politisé aussi, puis c'est assez clivant. Là. Donc, ça donne. Il y en a qui s'intéressent plus que d'autres. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est le sujet que tu proposais pour aujourd'hui. Ben, peut-être que tu peux juste rappeler le contexte pour les gens qui ne le connaissent pas trop. Là, en fait, est-ce que c'était une méta-étude, ça, qui était faite sur... ben, en fait, je te laisse l'expliquer, ça va être plus clair que si j'essaie de le reformuler.
Oui, ben, en fait, la raison que je t'ai pitché, le pitch que je t'ai fait, c'est que ça arrive fréquemment que tu as des intellectuels, on va mettre les ouais. air quotes ici, qui disent « Regarde, j'ai trouvé les fondations psychologiques du capitalisme et ça montre que le capitalisme, c'est un état d'esprit ou quelque chose qui rentre dans cette espèce de catégorie-là. » Puis, tu as souvent des variantes là-dessus. Tu as les variétés de capitalisme, tu as ouais. la pensée capitaliste. Tu avais des gens qui avaient fait des études qui montraient que c'était associé avec certaines caractéristiques comportementales que les gens ont. Par exemple, une incapacité à apprécier la générosité ou des choses comme ça. Puis, tu avais aussi une variante de ça, comme quoi que ben, les gens de gauche sont plus intelligents que les gens de droite. Tu avais toutes ces affaires-là qui sortent. Il y a toujours, de temps en temps, une affaire comme ça qui sort. Puis, comme chercheur, je suis vraiment sceptique de ça parce que la plupart des études de cet acabit sont dans le domaine de la psychologie. Et la psychologie, c'est un des domaines qui a vraiment un des taux de réplication. C'est-à-dire que quand tu décides de refaire les articles qui sont faits, tu as environ 40 à 65 des résultats qui réussissent à être répliqués. Puis quand je dis répliquer, c'est-à-dire que si le papier dit qu'il y a un effet positif, lui aussi trouve un effet significatif qui est positif. Ça veut dire que, quand tu y penses, ça veut dire qu'entre 35 et 60 des études en psychologie ne sont même pas capables de prouver que les résultats vont dans la même direction. C'est assez déprimant à dire. Fait que j'ai toujours pris la psycho avec un peu une certaine dose de scepticisme, un grand grain de sel à cause de cette difficulté de réplication qui vient. Puis ça, en passant, quand je dis que ça fait juste renverser la direction, ça renverse souvent la direction des résultats, il faut aussi considérer que la plupart du temps, quand les résultats sont confirmés dans la direction, la taille des effets aussi sont généralement plus petites. Alors que quand tu regardes des domaines comme médecine, biologie, économie, les taux de réplication, même si ce n'est pas du 100%, c'est nettement au-delà de cette proportion-là. Donc, au-delà de cette proportion de 40 à 65 de répliqués. En fait, en économie, on parle de 75-80. Puis souvent, les erreurs, ce n'est pas des erreurs de fabrication, c'est le test ne survit pas, genre à l'addition d'une année de plus de données. Il n'y avait juste pas assez d'observations. De telle sorte que quand tu as augmenté la taille de l'échantillon, tu as réussi à éliminer l'effet. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des études qui sont éliminées à toute fin pratique, ce qui est tout à fait normal. En fait, tu devrais accepter qu'il y a un certain pourcentage d'études qui vont faire des erreurs par définition. Mettons 20-30%, c'est à peu près normal parce que l'erreur étant humaine, mais le processus de réitération scientifique élimine ces choses-là. Mais en psycho, le fait que c'était aussi élevé m'a toujours rendu particulièrement sceptique. Puis le lien que je t'avais envoyé, pour que maintenant les auditeurs comprennent pourquoi on parle ça, c'est qu'il y a un gars qui a compilé toutes les révisions qui ont été faites à des gros articles scientifiques mm-hmm. qui sont souvent cités, qui disaient des certaines choses. Puis il y en avait un qui m'avait vraiment marqué, qui fit dans un peu le build-up que je t'avais donné. Ça s'appelait le money priming. Puis money priming, c'est que si tu donnes des images ou des phrases qui sont liées à la monnaie, genre juste à l'argent, là, en gros,
ouais, ouais, ouais.
tu augmentes la foi dans le capitalisme et dans l'idée que les gens qui sont pauvres ont mérité leur condition. Donc, c'est-à-dire que juste l'exposition, en fait, le nom de l'article, ça s'appelait « Mere exposure to money increases endorsement of free market system and social inequality ». Puis c'est un article qui était quand même assez bien cité, le gars qui a fait ça. Mais finalement, il y a deux personnes qui ont décidé, puis c'est là que ça arrive. Quand tu le répliques, ça ne tient pas.
Ouais. Bien, il y a plusieurs degrés dans cette histoire-là, sans parler de l'étude comme telle ou de ce que le gars a fait, c'est que oui, la psychologie comme telle, il y a des problèmes de réplication au niveau des études, comme tu l'as bien mentionné, puis c'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet-là un peu. Là, je pense dans le deux ou troisième podcast, tu en avais parlé quand on parlait du behavioral puis de ce genre d'approche-là. Mais il y a un autre problème aussi d'ordre méthodologique, c'est que la psychologie, à la base, c'est une discipline qui étudie l'individu et non pas la société. Donc, la branche sociale de la psychologie a toujours été, depuis que ça existe, en fait, la plus faible ouais. sur le plan théorique. Tu sais, même si on remonte à des auteurs comme Freud, par exemple, ou Piaget, là, les premiers, avant, parce qu'avant la psychologie, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'était comme une espèce de sous-branche de philosophie, en fait. Là. Donc, depuis que ça s'est constitué comme discipline à part, en fait, ça a toujours été le maillon faible de la psychologie. Ça a toujours été d'essayer d'appliquer des critères psychologiques pour des analyses sociales, ce qui donne toujours un peu des résultats un peu grotesques. Là. Comme par exemple expliquer la montée du nazisme par le nihilisme psychologique ou ce genre de catégories-là un peu étranges qui prennent... Tu sais, tu utilises tout le temps la formule « toute chose étant égale par ailleurs ». En fait, c'est... On dirait qu'en psychologie, c'est toujours toute chose n'ayant pas été prise en considération. C'est-à-dire que c'est toujours, on parle toujours de critères psychologiques qui s'appliquent, qui ont peut-être une pertinence au niveau de l'individu, mais que quand tu appliques ça à la société ou disons à des groupes dans la société, ça a plus ou moins de pertinence. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas d'inconscient, contrairement à ce que pense Carl Gustav Jung et ce genre d'auteur-là, il n'y a pas d'inconscient collectif, il n'y a pas de psychologie collective. L'individu a une psyché, une psychologie. La collectivité, je veux dire, c'est un peu comme une fiction, ça. Il n'y a pas de cerveau global, il n'y a pas de...
Non, en effet.
Tu sais, il n'y a pas de... Donc, les critères psychologiques, je veux dire, tu ne peux pas appliquer le complexe d'Œdipe à une société. Là. Donc, ça peut peut-être être fonctionnel pour l'individu, encore que ça reste à débattre selon l'approche qu'on a. Mais tu sais, quand tu lis Freud, tu peux te dire, OK, l'interprétation des rêves, je ne sais pas, moi, justement, le complexe d'Œdipe, ce genre de choses-là, tu te dis, bon, ben pour l'individu, le rapport triangulaire entre la mère, le père, l'enfant, tu te dis, il peut avoir une certaine logique là-dedans, encore que, tu sais, il faut que ça se soumette quand même à je veux dire, un peu d'expérimentation pour voir si dans le concret, c'est ce genre de théorie-là tient la route. Mais quand tu commences à essayer d'expliquer, comme il fait un peu dans Totem et Tabou et dans d'autres livres, les mentalités sur une longue période en utilisant des critères psychologiques, c'est là où, à mon avis, ça devient très faible. Puis ça devient un peu justement ridicule. On le voit, là, les tentatives d'explication par la psychologie de « Ah ouais, ben Napoléon, il a fait ce qu'il a fait parce qu'il y avait le complexe du petit homme » ou je sais, tu sais, ouais. je trouve ça très, 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 très faible. Comme, tu sais, ça peut avoir peut-être un certain degré d'explication, mais à mon avis, expliquer la Deuxième ouais, Guerre mondiale par la psychologie d'Hitler ou par le complexe d'infériorité de Mussolini ou je ne sais pas quoi, à mon avis, tu sais, ça a peut-être une pertinence sur le plan très, très individuel, mais dans la psychologie sociale comme telle, ce n'est pas vraiment une science, en tout cas, ou une discipline, appelons ça de même pour être plus exact, ce n'est pas une discipline, moi, qui me convainc vraiment. À chaque fois que je lis des trucs de psychologie sociale, je trouve que c'est très, très réducteur, que ça amène souvent juste un aspect de la réalité. Tu sais, ben oui, peut-être qu'Hitler, c'est un psychopathe, on étudie ses traits de personnalité, mais ça reste que c'est pas n'importe quel psychopathe qui finit chancelier du Reich, là, tu sais, je veux dire.
Écoute, je pense qu'il y a quelque chose que toi et moi, on parle depuis tantôt, puis il faudrait clarifier pour les auditeurs. psychologie, comme vous voyez un clinicien qui vous consulte sur des problèmes ou psychiatrie, c'est différent de psychologie sociale. Psychologie sociale, c'est un sous-domaine de psycho exact. Qui essaie d'expliquer des phénomènes de masse. Et il y a quand même une certaine origine à ça, qui est l'idée qu'il y a des psychologies de foule, donc des foules ensemble, généralement, sont plus apeurées.
Ça part en pas mal de Gustave Lebon, là, le français,
exactement.
Qui a écrit un livre qui s'appelle « La psychologie des foules ».
Que la personne, en fait, que la foule est aussi intelligente que son membre le plus imbécile, qui n'est pas un concept tout à fait ridicule, parce qu'il y a un effet de pair. Donc, quand tu es proche de quelqu'un qui t'observe, tu veux être bien vu par le groupe. Il y a effectivement des phénomènes qui sont partagés en groupe. Donc, c'est pas faux. Fait qu'il y a quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Par exemple, pour les auditeurs, on va clarifier une chose. Il existe trois trucs différents. Donc, la psychiatrie, la psychologie clinique, donc où est-ce que tu rencontres quelqu'un et tu discutes pour des problèmes, soit psychiatriques, soit psychologiques, détresse, dysphorie, peu importe c'est quoi, et tu as cette conversation-là. Ces deux domaines-là sont distincts de psychologie sociale. Psychologie sociale, c'est l'idée qu'en groupe, il existe des phénomènes qui sont partagés. Et ça fait du sens parce que c'est pas vrai qu'il y a zéro rôle pour ça. En groupe, effectivement, il y a la psychologie d'une foule. Il y a l'idiome de la sagesse des foules. Donc, des fois, parfois, les foules peuvent avoir un peu de sagesse en soi. Et juste l'idée que, tu sais, des fois, on se laisse influencer par qui nous observe autour. Si c'est dans une foule de personnes, il y a des bonnes chances que tu te sentes observé, donc que tu vas céder plus facilement à des pressions, que tu vas participer à un lynchage, même si toi, tu n'es pas super fan, donc ça existe, c'est pas faux de dire mais le problème de la psychologie sociale, puis ça, c'est quelque chose que tu as dit que j'ai vraiment aimé, c'est que ça assigne souvent un rôle incroyable au groupe. Donc, c'est pas que le groupe n'a pas de rôle, c'est que ça surestime le poids relatif du groupe relativement à l'individu, puis les groupes peuvent casser beaucoup plus facilement qu'on réalise empiriquement quand des individus font défection, quand ils décident de quitter. Et il y a beaucoup plus d'influence pour l'agence humaine là-dedans, ce qui m'a toujours rendu très sceptique des papiers en psychologie sociale qui essaient d'expliquer des très grandes choses. Pas des phénomènes circonscrits comme, par exemple, pourquoi est-ce que des foules seraient plus susceptibles de lyncher une personne ou de lancer des pierres à une autre personne ou de dégénérer en violence. Ce qui fait du sens à essayer d'expliquer, mais de passer d'un phénomène de groupe, disons, à un truc comme expliquer le capitalisme, un concept largement mal décrit par tout le monde, qui n'est jamais de manière satisfaisante d'écrire. En fait, généralement, quand quelqu'un dit le mot capitaliste, 9 fois sur 10, je pense que la personne vient de montrer qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Parce que c'est un concept...
C'est mélangé un peu avec n'importe quoi. Là. Puis les gens, le trois quarts du temps, quand les gens parlent de capitalisme, ce qu'ils veulent dire, c'est libéralisme. Ou, c'est
néolibéralisme. C'est un mot pour torcher quelqu'un. C'est pas fait pour. C'est pas un concept analytique. Donc, moi, j'attribue un très faible rôle à ça. En fait, je pense que quand tu utilises le terme puis que tu le dis d'une manière péjorative, j'ai l'impression que tu essaies de dénigrer quelqu'un. Puis si tu l'utilises de manière positive pour te glorifier, ben, t'es probablement en train de troller celui qui essaie de t'insulter. Donc, je vois pas un concept avec le mot qui est très pertinent. Donc, quand quelqu'un dit « je fais une étude pour expliquer la psychologie sociale du capitalisme », je suis là « nope, I'm out ». C'est très peu susceptible que tu dis quelque chose de pertinent. Fait que la branche psychologie sociale, je dirais que je suis sceptique pour ça. Mais il y a une autre raison. C'est qu'il y a énormément d'idéologie dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de militantisme. Ça arrive fréquemment qu'il y a des chercheurs qui se font coincer les doigts dans des histoires ou pour des raisons qui étaient propres à leur idéologie, ont trafiqué des données.
Oui. Bien, en plus, c'est juste pour mettre les choses claires pour les gens, le but là-dedans, c'est pas d'être anti-psychologie ou quoi que ce soit. C'est plutôt,
non.
En fait, l'idée, c'est plutôt que certaines disciplines ou certaines sciences ont un rayon d'action ou, disons, une pertinence pour certaines choses, puis pour d'autres choses, ils n'ont pas vraiment de pertinence. En fait, moi, on pourrait faire la même critique qu'à ceux qui utilisent la biologie pour essayer d'expliquer les trucs de société tout le temps. Là. Tu sais, des trucs style Henri Laborie, puis ce genre de choses. Là. Tu sais, expliquer les comportements des êtres humains parce que deux abeilles, quand on les étudie, se comportent comme ça. Moi, j'ai toujours été très sceptique de ça. D'abord, il y a quand même eu plusieurs dizaines de milliers d'années d'évolution où l'homme, en fait, a créé la culture aussi. Il y a quand même des trucs culturels, il y a quand même des trucs qui sont de l'ordre de la convention sociale. T'sais, Puis encore là, je ne veux pas tomber dans l'autre extrême où on dit que la nature n'existe pas puis que tout est social. C'est pas ça non plus le but. Mais c'est que moi, je pense que oui, la biologie explique une partie de nos comportements. Mais tu sais, moi, j'ai déjà lu des trucs où, mais dans le fond, tu sais, l'amour puis tout, ça existe comme plus ou moins. En fait, c'est que tu vois dans l'autre un partenaire qui t'est complémentaire d'un point de vue génétique. Puis tu es comme, ouais, moi, ce genre d'analyse-là, tu sais, surbiologisante. Où tout n'est comme... En fait, l'être humain n'a aucun libre arbitre, on n'a aucune volonté, on n'a aucune liberté, on est comme esclave de notre biologie. J'accorde autant de crédibilité à ça qu'aux gens qui psychologisent tout, en fait, puis qui, au final, reviennent un peu avec le même fondement. C'est pas un hasard que je compare les deux. C'est qu'en fait, ces deux approches-là nient la liberté humaine. En fait, ils vont toujours partir du présupposé. Dans un cas, tu es esclave de ta biologie. Dans l'autre cas, tu es un peu esclave de tes parents puis de ton enfance ou de la société dans laquelle tu vis. Donc, dans le fond, c'est un peu pas de ta faute ou c'est un peu pas vraiment volontaire que tu crois ou tu penses telle affaire. C'est parce que c'est comme il y a comme des codes sociaux qui t'ont été imposés de manière un peu subliminale. C'est un peu ce à quoi tu faisais référence tout à l'heure. Puis quand on confronte ces énoncés-là, ces thèses-là à l'expérimentation, bien, il y a plus ou moins de réplicabilité. Puis il y a plus ou moins, à mon avis, il y a plus ou moins de pertinence là-dedans. Puis tu sais, je pense que peut-être la psychologie sociale ou l'analyse
peut-être pertinente dans l'analyse de
secte ou... dans l'analyse comme quelque chose ou d'un phénomène social très particulier, mais quand on arrive à dire « Ah, mais là, dans la société occidentale, c'est déjà en partant, on ne sait même pas c'est quoi la société. Est-ce que ça existe, ça, la société occidentale? » T'sais, c'est tellement des concepts larges, englobants, qui veulent plus ou moins dire grand-chose que moi je décroche un peu.
Oui, bien écoute, j'aime comment tu le dis parce que ça approche vraiment un peu de... Quand tu dis rayon d'action, par exemple, donc chaque science a son rayon d'action, ça te montre un peu que des fois, si tu veux couvrir une certaine distance, ben, le rayon d'action d'une seule science n'est pas suffisant. Je pense généralement que l'économie est probablement celle qui a le rayon d'action le plus large de toutes les sciences sociales parce que ça fait juste instrumentaliser les choix des gens. Donc, on utilise leurs contraintes, on est relativement flexible. Mais on a de la place pour utiliser, par exemple, donc d'instrumentaliser la psychologie, la biologie, plusieurs éléments ensemble pour arriver à comprendre le choix des individus. Mais même là, tu remarqueras qu'on multiplie des rayons d'action ensemble pour aller plus loin. Psychologie sociale, généralement, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'ils décident que leur rayon d'action englobe tous les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est une tendance très, très forte. Et généralement, quand tu dis que tu as cette espèce de capacité explicative qui est tellement forte que tu es capable de presque tout expliquer, ben, tu n'expliques rien. Puis c'est pour ça qu'il y a une crise de réplicabilité. Donc, tu sais, par exemple, celle que je mentionnais, il y en a une autre qui vaut la peine d'être mentionnée. Celle, par exemple, juste d'être exposée à des signes qui a de l'argent dessus. Il y a deux études qui ont essayé de répliquer ce que cette personne-là a fait. D'ailleurs, il faut souligner que le gars qui avait fait cette première étude-là, ses observations, il y avait à peu près entre 30 et 170 personnes dans l'échantillon. Ce qui, pour ceux qui font de la statistique, un échantillon de 30, c'est comme la taille minimale que tu peux avoir pour faire quoi que ce soit, genre, c'est de dessin. Puis généralement, quand tu dépasses 1000 observations, ben tes erreurs, à moins dépendant de la distribution de tes erreurs d'estimation, là, tu devrais avoir quelque chose de plus ou moins stable. Mais de faire une aussi grande conclusion à partir d'un aussi petit échantillon, c'est super débattable. Fait que tu as un gars qui a fait des réplications. Donc, il y en a un qui a augmenté un peu la taille de l'échantillon. Puis il trouve, en faisant justement des études pré-enregistrées, donc il avait dit c'est quoi qu'il faisait avant de le faire. Comme ça, tu sais, il enregistrait parce que le pré-enregistrement des études, c'est une chose super importante parce que tu te commets à publier peu importe le résultat. Puis ça, c'est quelque chose qui est hautement scientifique. Comme ça, tu ne caches pas des résultats que tu n'as pas aimés. Puis ça, c'est quelque chose qui a été découvert en psycho, probablement que si on pouvait tenir compte de ça, des résultats qui sont désavantageux puis qui sont juste mis dans le tiroir après des expériences, ben, tu aurais probablement des taux de réplication encore plus bas parce qu'il y a plein de choses, tu sais, que les gens ont juste dit, ben, ça n'a pas fité avec ce que je voulais à première vue, trop d'efforts pour le compléter, donc je ne veux juste pas le publier. Donc, ça, c'est l'effet, le file drawer effect. Le fait que ce n'était pas répliqué, puis que le gars a enregistré ses pré-études, il a trouvé que pour 47 expériences différentes, trouvait qu'il y avait zéro effet de l'exposition à des images matérielles du capitalisme, donc que tu avais un effet, il trouve pas d'effet du tout de l'image sur tes croyances. Donc, tes croyances ne sont pas aussi faibles que juste l'image en soi. Fait que tu sais, c'est pas exactement super fort. C'est même très faible. Il y en avait un autre qui était super connu. Là, il n'y a personne qui va savoir c'est qui, mais le gars, c'était j'oublie le prénom, mais Staple, qui était un prof de psychologie sociale aux Pays-Bas. Il avait publié plusieurs études qui étaient assez étranges, mais il y en avait une qui donnait aux gens, là, j'oublie les détails, on the top of my head, mais qui donnait aux gens des M&M dans des contenants. Et que le type de contenant choisi avait une sorte de corrélation avec les croyances idéologiques. Cette étude-là avait montré un peu que les gens qui se disent capitalistes ont un plus haut niveau d'avarice. 3-4 ans plus tard, après cette étude-là, qui était hyper citée, qui était souvent mentionnée dans les médias, puis tout, on a découvert, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de répliquer son truc, ils arrivaient à aucunement un résultat aussi fort que lui. Puis à un moment donné, parce que tu dois dévoiler tes données initiales, tu dois les préserver. Il y a eu de la pression, mais il a été obligé d'admettre qu'il avait inventé des données. Ouais. En fait, qu'il s'était assis chez lui, puis qu'il avait lui-même fait les choix, puis il avait dit que qu'est-ce qui ressemble le plus à ce que lui s'attendait. Il a perdu sa job d'ailleurs à l'université Tilburg aux Pays-Bas. Tu en as eu des cas comme ça, puis lui, c'est pas le seul, mais lui, son étude était largement citée. C'est fait rincer, là. Mais son étude a été super citée dans les médias. En fait, ça m'arrive fréquemment d'avoir des gens qui se rappellent d'avoir entendu ça quelque part et donc qui me le répètent. Puis je dis non, mais cette étude-là a été complètement démoli. Là. En fait, le gars, il a trafiqué les données. C'est même pas une question d'interprétation. Non, non, là. C'était made up. Mm-hmm. Totalement made up. Donc, tu arrives et tu peux pas vraiment embarquer à bord. Mais je pense que là, il y a quelque chose qui est un peu frustrant parce que ces études-là, souvent, tu as toujours quelqu'un. Parce que si c'était juste ça, ça serait juste un problème scientifique. Et tu aurais le processus d'élimination par recherche qui se produirait. Donc, ça disparaîtrait un petit peu ou son poids serait minimisé, ce qui se produit un peu dans les facultés de sciences sociales. Psychologie sociale, généralement, c'est un département qui a beaucoup de difficultés dans les dernières années à cause de cette crise de réplicabilité. Mais le problème, c'est que quand une information de même est sortie dans les médias, c'est rare que la correction reçoit un poids aussi important que le truc initial. Et ça en est vraiment frustrant, là. Ça en est excessivement frustrant. Et j'en viens un peu à l'image que ce que les gens ont comme souvent comme image de la société de marché ou de ce qu'eux appellent, avec dénigrement, le capitalisme. C'est vraiment quelque chose qui reflète les préférences idéologiques de ceux qui aiment faire la critique de ce système-là. Mm-hmm. Même si ça représente en rien quelque chose de scientifiquement valide.
Mm. Oui, exactement. C'est quand même un peu paradoxal, en plus que peut-être les gens qui nous écoutent ne le savent pas, que la psychologie soit autant utilisée aujourd'hui par les gens plus à gauche, même très à gauche, pour faire la critique ou tenter de faire la critique du système capitaliste ou disons du free market world, là, parce que pendant très longtemps, en fait, tout ce qu'il y avait de mouvement de gauche, de tendance, je dirais, marxiste ou anarchiste, niait l'existence et la pertinence de la psychologie. Pourquoi? Je ne ferai pas un long cours d'histoire marxiste, là, c'est que dans la théorie de Marx, ce que vous pensez est le reflet de votre classe sociale. Donc, si vous êtes un bourgeois, vous pensez comme un bourgeois. Si vous êtes un prolétaire, vous pensez comme un prolétaire. Puis là, il y a celui qui écrivait avec, ce qui s'appelait Engels, lui, il l'avait formulé autrement. Il disait l'infrastructure économique produit la superstructure idéologique. C'est une formule compliquée qui veut juste dire que quand vous êtes pauvre, vous pensez comme un pauvre. Quand vous êtes riche, vous pensez comme un riche. Grosso modo, c'est ça. Donc, dans cet ordre-là. Puis là, quand la psychanalyse a commencé, la psychologie a commencé, toute cette théorie-là a été critiquée beaucoup, beaucoup par la gauche et l'extrême gauche, comme théorie bourgeoise, comme il y avait même des auteurs comme Henri Vallon, puis l'autre, je pense que c'était René Zazo qui s'appelait. Eux autres, ils disaient que, dans le fond, quand tu es, mettons, propriétaire d'une grande entreprise, puis que tu vas chez ton psychanalyste ou ton psychologue, il te fait oublier que dans la vie réelle, en fait, c'est toi le problème et c'est toi le prédateur parce que tu t'abuses tes employés et il te ramène au statut de victime en t'expliquant qu'en fait, ce que tu fais, c'est pas de ta faute, c'est à cause de comment tes parents t'ont traité quand tu étais enfant. Donc, en fait, c'est une machine à produire de la déculpabilisation pour les gens qui abusent des pauvres, etc. En tout cas, tu vois un peu où ça allait, ce genre de théorie-là. Et c'est dans les années 60-70 quand est arrivé ce qu'on appelle le freudo-marxisme, donc c'est-à-dire les gens qui étaient dans l'anticapitalisme, la critique du capitalisme, ont fait la jonction entre la psychologie analytique, la psychanalyse beaucoup, puis plus tard, c'est devenu la psychologie sociale et le marxisme. Et que c'est là que, quand tu lis des auteurs, mettons, comme aujourd'hui, sont devenus là, tous des apôtres de la décroissance, ce genre de choses-là. Mais quand tu lis un auteur comme Serge Latouche, il écrit un livre dans les années 70 qui s'appelle « Épistémologie et économie ». C'est drôle quand tu lis ça aujourd'hui parce que tu sais, il y a toutes sortes de raisonnement où, mettons, on utilise la psychanalyse pour expliquer que l'argent est comme un symbole des excréments. Puis là, tu sais, tu as toutes sortes de trucs là, de psychologie très tordue. Mais là, ça, c'est comme caché. Là. Mais c'est les origines de la psychologie. C'est les origines concrètes
la psychologie sociale. Oui, c'est ça. Je voulais faire la distinction là, pour pas qu'on jette tout ensemble. En fait, je connais beaucoup de psychologues qui sont très sceptique de psychologie sociale. Mm-hmm. Il y en a aussi, par exemple, des gens qui font de la psychologie sociale qui sont beaucoup plus modestes à l'égard de ce que leur domaine peut faire. Un bon exemple de ça, c'est peut-être Jordan Peterson qui est au milieu entre les deux, donc il fait un peu de psychologie sociale, mm-hmm. mais il fait vraiment... En fait, je suis pas d'accord avec lui tout le temps, mais il est nettement au-dessus des standards que je suis habitué en termes de psychosocial. Mais je pense que dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui revient, c'est que souvent, ceux qui participent à la conversation essaient de réinterpréter le monde à travers leurs préférences à eux. Comment est-ce qu'eux voient l'univers? Donc, ils vont essayer de prendre un monde avec multiples dimensions, puis ils vont essayer de le comprimer dans un univers plus petit qui est lisible pour eux. Alors qu'en réalité, la manière dont chaque personne conçoit l'univers est assez large en termes de dimensions qui sont importantes pour lui, puis le poids de chacune des dimensions est nettement différent. Donc, moi, pour moi, le poids familial de ma vie est probablement une importance plus grande que pour certaines personnes. Donc, par exemple, ceux qui sont célibataires, probablement n'ont pas autant d'importance sur la vie en famille que ceux qui sont volontaires, puis que volontairement, donc, ils ne veulent pas être avec d'autres personnes, qu'ils aiment ça être tout seuls, ils ne veulent pas avoir d'enfants. Bien, ils ont mis un poids différent sur une dimension de leur vie. Donc, ils vont faire des choix différents à cause d'une série de préférences. Étant donné les coûts qu'ils ont à faire face au quotidien, ils font des choix particuliers. Mais là, si on disait, bon, on va essayer de résumer tout le monde à un univers genre gauche-droite, bien là, c'est sûr que tu vas arriver avec des résultats qui ne font pas de sens. Peut-être seulement quand tu prends un échantillon, puis par vertu d'échantillonnage, tu réussis à avoir un drôle de résultat parce que, ben, une fois de temps en temps, un échantillon va produire un résultat étrange. C'est comme une loi statistique. Donc, tu pourrais juste trouver par accident des choses, des trucs weird. Mais généralement, quand tu tends à essayer d'augmenter le nombre de dimensions que tu considères, tu réalises que souvent les études qui essaient de faire de la psychologie vont arriver à des résultats complètement différents. Dès que tu augmentes même minimalement le nombre de dimensions, le meilleur exemple, c'est, tu sais, on en parlait au début, ceux qui disent que la gauche est plus intelligente que la droite, ou ceux qui aiment ça dire que la droite est plus intelligente que la gauche. Puis il y a plein d'études qui montrent en fait que quand tu résumes à gauche-droite, il y a l'air d'avoir un quotient intellectuel un petit peu plus élevé chez les gens de gauche. Mais il y a un article dans Intelligence, qui est un journal peer-reviewed qui travaille là-dessus, qui a pris un grand échantillon de gens du Danemark et des États-Unis, donc tu sais, pour essayer d'éviter des drôles de façades culturelles. Ouais. On a regardé qu'est-ce qui arrive si on ajoute une dimension où est-ce que tu as les dimensions des politiques économiques et tu as la dimension des politiques sociales. Tu trouves que dès que tu ajoutes une dimension, tu essaies de créer la personne, pas sur une ligne gauche-droite, mais sur une ligne dans un espace à deux dimensions, donc vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, ben, tu arrives que l'intelligence ne prédit absolument pas le vote. Donc, si tu es plus intelligent, ça ne prédit pas si tu votes à gauche ou à droite. Par contre, une imprédiction que le gars trouvait, c'était que les gens, plus tu as des visions, plus tu as une tendance à des visions vers plus autoritaire. Donc, sur un axe où est-ce que tu te dis, ben, tu peux être plus autoritaire en manière économique et plus autoritaire en manière sociale, ben, c'est dans ce groupe-là que tu retrouves peut-être un écart-type plus important relativement à l'intelligence moyenne. Alors que dans les groupes où est-ce que tu as moins de vision autoritaire de l'économie, mais aussi de la vie sociale, tu avais des écarts-types au-dessus de la moyenne. Mais ça, encore une fois, je trouve que c'est super limitant parce que c'est juste deux dimensions, puis les gens ne pensent pas en deux dimensions, les gens pensent dans une multitude de dimensions en même temps. Bon, c'est difficile à le formuler pour eux nécessairement, mais c'est pas vrai que tu considères uniquement deux choses chaque fois que tu fais un choix, tu considères une multitude d'alternatives. Bien, juste ajouter une autre dimension a comme renversé complètement un des résultats qui est souvent mentionné. En fait, quand tu regardes dans les études, généralement, dès que tu ajoutes cette deuxième dimension-là, c'est pas mal confirmé. Donc ça, c'est un des résultats qui est super souvent répliqué. C'est que les gens qui ont des visions non autoritaires sont beaucoup plus en haut de la moyenne. Maintenant, est-ce que c'est parce que tu tiens des visions de bilan en russe? Regarde, tu as remarqué que j'ajoute une autre dimension. Là, j'ajoute la dimension dans quelle direction les choses vont. Est-ce que c'est parce que tu es autoritaire que tu deviens plus con? Parce que c'est possible que ça soit ça, que tu sois moins intelligent parce que tu as des vues autoritaires. Ou est-ce que c'est parce que tu as des vues autoritaires que tu es plus... En fait, c'est parce que tu es plus intelligent que tu as des vues autoritaires. Ça peut aller dans les deux directions. C'est possible que pas que l'intelligence est non malléable, il y a un certain degré de malléabilité qui se produit. Donc, c'est possible que des fois, si tu tiens une certaine opinion et que tu ne t'exposes pas à d'autres choses différentes, mais que tu vas tenir cette opinion-là puis que tu vas peut-être t'abrutir à travers le processus. Donc, je n'ai même rien dit, encore une fois, sur la direction de la causation. J'ai juste fait un commentaire sur la corrélation. Puis quand tu fais la corrélation, ben, le résultat, juste en ajoutant une autre dimension, ben, finalement, ça ne tient plus pantoute. La manière dont les gens le disaient.
Oui, puis tu sais, le fait qu'un individu s'accommode d'un gouvernement ou disons d'une vision du monde autoritaire est très aussi variable à son degré d'adhésion à cette vision autoritaire-là. Et pour le dire concrètement, si le gouvernement autoritaire qui t'est imposé, il va à l'encontre à 100% ou disons en grande majorité à tes vues personnelles sur la politique, la religion, etc., tu vas avoir tendance à t'y opposer plus naturellement que si je te dis « Ah ouais, ben ça va être un peu autoritaire, mais tu sais, ça va être toutes tes idées qui vont être mises là. Ah ouais. » T'sais, tu peux peut-être plus facilement t'y accommoder. Là, c'est ça aussi l'histoire. Hein. Ça dépend comment tu vois le problème.
Ben, en effet, puis je te dirais que j'ai toujours, à cause de trucs comme ça, là, j'ai toujours été hyper sceptique des espèces d'explications qui essayent de partir du groupe pour ensuite expliquer quelque chose à propos des individus, parce que tu remarqueras, genre, dans ceux sur l'intelligence, puis je me souviens, à un moment donné, il y avait un texte dans la presse qui disait quelque chose comme ça. Je pense que dans le temps que c'était Vincent Marissal qui devrait dire beaucoup de choses, là. En fait, sur le biais de la personne, pas parce que c'est une mauvaise personne, je pense que la personne avait des biais qui lui étaient propres, puis c'est normal, mais est partie de la prémisse de le groupe en soi, donc les individus, pas les individus, donc le groupe. Puis ça te montre que tu as une espèce de distorsion qui part de la collectivité. Donc, qu'est-ce que je veux voir? Donc, je vois ce que je veux trouver à toute fin pratique. Alors que même si en réalité, quand tu vas sur le terrain, ben, il n'y a pas vraiment ces espèces de patterns-là. L'idéologie, puis l'intelligence, les symboles, puis l'idéologie, c'est généralement une relation super faible, mais vraiment faible. Donc, je suis hyper sceptique de ces résultats-là. Puis quand vous avez des gens qui vous disent, tu sais, le capitalisme est mauvais à cause de... le groupe, ça crée des mauvaises valeurs ou des choses comme ça, c'est généralement des arguments super faibles. Parce que ça, c'est pas en train de répondre sur, par exemple, est-ce que, parce que je vais donner une critique, puis encore une fois, je mets les air quotes autour de capitalisme parce que je trouve le concept assez vague, puis ça montre encore une fois, selon moi, que si tu utilises ça, si tu entends quelqu'un dire ça, ça devrait partir une alarme comme quoi que la personne est juste en train de dire qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Ce qui n'est pas un statement positif à propos du monde, c'est pas un statement de fait, c'est un statement de I don't like this. OK?
Ben, en fait, pour toi. En fait, pour moi, quelqu'un qui utilise ce mot-là, c'est comme quelqu'un qui dit ah, l'homme blanc. C'est quoi ça, l'homme blanc? C'est un check, c'est-tu un blanc?
Oui, mais c'est ça. Les groupes, c'est beaucoup plus malléable que ce qu'on pense. Mais une critique, mettons que j'accepterais du capitalisme, encore une fois, quote, là, ça serait genre que tu dis, ben, dans un système capitaliste, parce que les gens n'ont pas nécessairement les mêmes avantages à la naissance, ben, il va y avoir des inégalités, puis ces inégalités-là peuvent créer un manque de confiance entre individus, donc les gens ne se comprennent pas aussi facilement, donc il y a une plus grande propension à la violence. Donc il y avait un économiste qui s'appelle, par exemple, Sam Bowles, qui, dans un super bon petit livre, The Political Economy of Inequality and Redistribution, qui est un super, super livre d'un économiste assez à gauche, il dit, ben, un des gros problèmes des sociétés hautement inégalitaires, c'est que les gens comme sont associés avec beaucoup moins de confiance interpersonnelle, ben, ces sociétés-là doivent dépenser davantage pour produire de la sécurité. Donc, un peu pour neutraliser le risque de la violence, il faut que tu dépenses plus de ressources dans de la sécurité que si tu avais une société plus égalitaire. Mais là, tu remarqueras que ce qui se passe, c'est que tu m'as proposé un mécanisme qui part des actions des individus qui dit si tu augmentes le niveau de perception de la distance entre les gens, bien, il y a plus de chances qu'il y ait des accrochages entre les individus. Donc, il faut que tu dépenses davantage pour limiter le problème de ces accrochages-là. Mais si tu dépenses davantage là-dessus, ce n'est pas en train de produire des nouvelles machines, ce n'est pas en train de produire du nouveau capital humain. Donc, tu as moins de croissance économique. Là, tu vois, tu viens de me présenter une sorte de critique du capitalisme, dans ce cas-là, encore une fois, quote-unquote, capitalisme. Qui fait plus de sens, qui a un mécanisme basé dans le choix des individus et qui ensuite se transfère vers la collectivité. Pas de la collectivité vers les individus, de l'individu, ce que lui perçoit versus la communauté. Là, ça fait plus de sens. Là, c'est plus pertinent comme explication. Là, tu peux avoir aussi d'autres personnes qui critiquent, genre le libre marché en disant que les marchés ne peuvent pas produire certains biens qui sont importants, donc des biens publics ou de gérer les externalités, donc la pollution, par exemple. Là, tu vois, ça, c'est une critique qui fait plus de sens. Si tu dis après ça, quand tu rentres dans le normatif, si tu dis, ben il y a un certain respect pour les pauvres qu'il faudrait qu'on ait, là, tu vois, là, c'est une critique normative qui est plus riche, mais là, dans ce cas-ci, c'est un débat philosophique qui peut utiliser des statements scientifiques, mais que là, il y a un jugement de valeur qui est en jeu. Mais c'est pas ça que la psychologie sociale fait. La psychologie sociale, souvent, essaie de dire, bien, scientifiquement, on trouve ça. C'est pas un débat philosophique. Donc, dans les catégories de critiques les plus faibles du capitalisme, c'est ce genre-là. Psychologie sociale, c'est vraiment les plus faibles. Alors que celle qui rentrerait dans critique philosophique et critique positive avec des mécanismes économique sur les capacités des marchés. Là, ça, c'est des critiques que je juge qui ont un sérieux puis qui nécessitent qu'on s'assoie sérieusement.
Qu'on c'est engage. Les fondements.
C'est plus oui, c'est ça. Puis c'est une critique de fondement. Puis c'est pas. En fait, non seulement ça, mais c'est vraiment c'est que la similarité entre ces deux approches-là, c'est que les deux partent de ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Là, on en avait parlé, je pense, il y a quelques épisodes ensemble. C'est que l'individualisme méthodologique, c'est l'idée que ta seule unité d'analyse, ça commence de l'individu. Tu ne commences jamais du groupe. Oublie le groupe. Le groupe, c'est comme un résultat. Tu commences exclusivement de l'individu parce que quand tu commences du groupe, tu risques de faire des erreurs. Tu risques de faire des grosses erreurs de raisonnement.
Mmh. Oui, ben c'est comme c'est Aristote qui disait ça dans un de ses livres. Il disait, lui utilisait le terme la cité, c'est comme ça qu'on s'exprimait à l'époque, mais disons la société. La société, c'est quoi? C'est l'ensemble des familles. Il utilisait cette technique. Il avait quand même compris, lui, à son époque, que en fait, c'est quoi Athènes, en fait? C'est l'ensemble des familles qui y vivent, c'est l'ensemble des gens qui y vivent. c'est pas quelque chose de supérieur à l'ensemble des parties. Et c'est ça qui est la grosse différence. Parce que quand tu prêtes des intentions comme un peu éternelles ou intangibles à des groupes, puis que tu plaques après ça sur l'individu, là, tu condamnes les gens, à, même contre leur gré. Oui, oui, mais parce que tu le sais pas, mais tu fais partie de ce groupe-là. Ou que tu le veuilles ou non, on entend ça souvent, là, des fois. Là, même si t'en es pas conscient de ça, t'en es pas conscient. Puis ça, en plus, toute la mécanique de la psychologie a été quand même très fortement critiquée par un philosophe qui s'appelle Karl Popper, qui disait que quand, en fait, que beaucoup d'assertions en psychologie, notamment en psychologie de l'inconscient, est basée sur
Choses que tu ne peux pas falsifier.
Des choses que tu ne peux pas falsifier. Donc, pour le dire très simplement pour que les gens comprennent, si je te dis, par exemple, ton problème vient de quelque chose dans ton enfance. Là, tu dis, ben non, mon enfance est correct.
Tu ne peux pas le prouver.
Si tu donnes raison à la personne a raison. Et si tu ne lui donnes pas raison, c'est la preuve qu'il a raison parce que tu l'as, par exemple, refoulé.
Oui.
Ben, donc, ça, c'est un mécanisme d'auto-validation qui est typique à peu près de toutes les pseudo-sciences.
Oui, bien écoute, je pense. Puis, tu as dit le mot falsifié. On s'est dit ensemble le mot falsifié. Ouais. Mais pour les auditeurs, là, les gens qui pensent que prouver puis falsifier, c'est comme la deux facettes de la même chose, fuck non. Fuck non, c'est pas la même chose. Parce que si je te dis, puis c'est ça la nature, puis ça, là, les gens, si vous voulez entendre quelqu'un qui est un vrai scientifique, tu remarqueras que c'est. Puis moi, je refuse de dire le mot prouver. Parce que prouver, c'est quelque chose pour les avocats. OK? C'est complètement différent. Dans leur processus, eux prouvent. Mais nous, quand on fait des statements sociaux, tout ce que tu peux faire, c'est falsifier. Parce qu'imagine que je te dis, puis là, toi, je sais que tu le sais, mais pour les auditeurs, là, voici l'image. Là. Je te dis, tous les bouts sont noirs. Comment tu prouves que tous les bouts sont noirs? Tu vas-tu vraiment aller chercher tous les bouts de la planète, les mettre dans une cage puis regarder s'ils sont noirs? Non, tu ne vas pas faire ça. Par contre, tout ce que tu as à faire, c'est en trouver un blanc. Si tu trouves un hibou blanc, ben, l'affirmation, tous les bouts sont noirs, est donc par définition fausse. Là, la pression, c'est la plupart des hiboux sont noirs. OK? Ben, définis plupart. Dis-moi, c'est quoi la proportion? Donc là, on cherche jusqu'à ce qu'on arrive à la proportion que tu mentionnes. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu raffines par la négative, donc par la falsification, ton affirmation jusqu'à ce que tu arrives à quelque chose de précis. Donc ça, là, c'est vraiment, tu remarqueras que vraiment des bons scientifiques, ils vont dire, on n'est pas capable de falsifier cette étude-là. Puis en fait, tout le monde un peu accepte parce que c'est un peu comme dire ben la preuve que Dieu existe, c'est qu'il n'y a pas d'absence de preuve. Non, ça compte pas, c'est pas.
Ouais, c'est un raisonnement circulaire.
C'est si ton raisonnement commence à la même place qui se termine, la discussion, c'est que t'es, par définition, tu n'es pas une personne sérieuse.
De toute façon, le concept de les concepts de vrai et de vrai et de faux, de vérité et de fausseté. Normalement, ce n'est pas quelque chose qui est très, très opérant dans une démarche scientifique, là, dans le sens qu'on est plus dans l'ordre du jusqu'à preuve du contraire, ceci est probable, là, disons.
Oui, parce que non seulement ça.
C'est plus un concept, je dirais, d'ordre philosophique.
Oui, mais tu sais, juste encore un truc pour les auditeurs. Tu sais, quand toi et moi, on parle de réplication depuis tantôt, là, la réplication, c'est comme la forme la plus primitive de science. C'est pas, tu sais, quand tu fais une réplication, tu es en train de dire voici ce que l'autre dit. En faisant exactement ce qu'il dit, j'essaie de voir si je suis capable de faire la même chose que lui. Je ne suis pas en train d'interpréter ses résultats. Je ne suis pas en train de dire s'il y a certaines de ses présomptions qui font du sens, si ses hypothèses sont bonnes ou s'il a mal identifié quelque chose, s'il est en train de confondre corrélation et causation. J'ai comme fait l'activité la plus basique de l'activité scientifique. C'est comme si tu disais l'activité la plus basique de savoir nager, c'est d'aller dans la piscine. C'est pas un haut benchmark. Donc, de dire que ce domaine-là, tu sais, quand tu décides d'utiliser de cette boîte à outils-là, une sorte de critique du capitalisme en disant « Ah, regarde, il y a des gens qui critiquent, puis c'est scientifique. » Tu dis « Écoute, même le test de base, ouais, le plus de base, bon, que c'est pas réplicable, ben, ça devrait te dire à quel point ta critique est sérieuse. » Donc, sérieusement, j'aimerais ça que si ça pouvait, cette catégorie d'arguments-là pouvait disparaître, je serais vraiment content parce que c'est ceux qui me prennent le plus de temps. Parce que, un, ils pognent plus l'imaginaire, ils réussissent bien dans les médias, mais c'est ceux aussi qui sont généralement les plus faibles si ça pouvait disparaître ou au moins se limiter au rayon d'action qui est comme celui qui fonctionne, ben ça serait beaucoup mieux parce qu'on aurait au moins des conversations plus intelligentes sur le, encore une fois, quote en quote, le capitalisme. Encore une fois, je pense que c'est juste un terme qui est fait pour insulter les gens que tu n'aimes pas. Là. C'est un peu comme quand dans les années 50, tu avais des gens qui disaient communiste. Ben, moi, la personne de gauche qui dit capitaliste aujourd'hui, c'est la même version que Joe McCarthy qui dit communiste dans les années 50. C'est le même niveau de sophistication intellectuelle. C'est, pour moi, c'est le même niveau de sérieux.
Non, c'est clair. C'est du même acabit. Mais tu sais, pour revenir un peu à ce qu'on disait sur justement le rayon d'application, en fait, ce que font beaucoup de gens en psychologie, d'appliquer des critères individuels à une analyse sociale, en fait, l'inverse ne serait pas mieux non plus. Là. Dans le sens que, je veux dire, si vous allez voir un sociologue pour vous faire parler de votre dépression, c'est pas mieux non plus. Là. En fait, chaque discipline a un cercle de pertinence d'action. Ou disons un rayon d'action, comme on a dit, qui devient pertinent. Donc, tu sais, ou même chose, aller voir, je ne sais pas moi, si quelqu'un a un problème dans son entreprise, puis il a besoin de quelqu'un pour des relations de travail, un anthropologue ne t'aidera pas. Là, je veux dire, à un moment donné, il y a une pertinence pour peut-être chaque discipline avec divers degrés. Puis, c'est pas une question là-dedans de jugement de valeur, c'est une question de... parce que des fois, quand tu fais des... je vais employer un mot compliqué, mais qui est en fait très simple, là, qui s'appelle l'épistémologie. En fait, c'est quand en philosophie, tu fais de la philosophie des sciences, là, que tu étudies comment les sciences fonctionnent, bien, tu arrives un peu toujours à la même conclusion que les sciences, entre guillemets, dites naturelles ou les sciences pures, appelez-les comme vous voulez, bien, ont une plus grande réplicabilité, évidemment, que la majorité des sciences humaines. Puis ça, c'est pas poser un jugement de valeur négatif sur les sciences humaines puis glorifier les sciences de la nature. C'est qu'en fait, c'est l'objet d'étude ou disons la méthode qui fait en sorte que tu arrives à ça. Tu sais, la science la plus réplicable au monde, ben, c'est les mathématiques. Quand tu prends le théorème de Pythagore, tu as bien beau essayer 150 millions de fois, tu vas toujours arriver au même résultat. Yep. Si tu prends les éléments d'Euclide, tu as bien beau virer ça de bord comme tu veux, c'est toujours un peu la même chose. Il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre, ou en tout cas presque de la vérité. Là. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont comme un peu indiscutables. Mais pourquoi? Bien parce que les mathématiques, c'est quelque chose d'un peu idéal. T'sais, c'est comme on est dans un instrument de connaissance qui n'a pas de variété, change pas avec le temps, n'est pas vraiment modifiable pour toutes sortes de raisons. Mais quand on arrive à étudier, je ne sais pas moi, l'intelligence d'une foule, ben là, on est dans un ordre qui en fait, c'est excessivement complexe. Donc, qu'est-ce que tu entends par foule? Qu'est-ce que tu entends par intelligence? Comment est-ce que tu peux mesurer ça? Est-ce que un ensemble d'individus, c'est la même chose qu'un groupe? C'est excessivement complexe. Donc, c'est normal que plus ce soit complexe comme ça, puis moins ça fasse appel à des instruments techniques ou disons qui ont une valeur de vérité évidente. Donc, c'est normal que tu arrives à des résultats qui sont plus ou moins, qui sont plus de l'ordre du probable que de la vérité. C'est normal. C'est pas un jugement de valeur qu'on fait là, c'est une constatation. Ça paraît évident.
Ben, moi, je vais te faire un jugement de valeur à partir des observations que je fais en sciences sociales. Là. Parce que comme en sciences sociales, tu tâtonnes un peu plus, que tu as besoin, tu marches dans le noir, puis tu as beaucoup plus d'incertitudes qu'autre chose. Tu es un peu forcé d'être modeste. Puis je vois pas comment tu peux être un social scientist, quelqu'un qui est dans les sciences sociales, sans être modeste. En fait, tu devrais même pas être idéaliste dans un tel monde. Tu dois être une sorte de, soit un cynique, ce qui est mon cas un peu à moi. je suis un cynique heureux. Là. Ouais. Cheerful cynic, là, comme je dis à mes collègues. Donc, tu as soit ça, ou soit tu es quelqu'un qui reconnaît tellement les limitations que tu es content avec des petites choses qui améliorent à la marge. Donc, tu n'as pas nécessairement... Tu as comme une idée de la direction dans laquelle tu veux aller, mais tu n'es pas sûr de c'est quoi la destination, si tu peux te rendre à la destination parfaite. Quand tu rencontres quelqu'un qui fait des sciences sociales et qui a cette espèce de radicalisme-là, tant à droite qu'à gauche, là, tu ne devrais pas le prendre au sérieux. Parce que cette personne-là est en train de te dire que ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant la question qu'il a décidé de choisir, mais la réponse qu'il produit. Si la réponse est plus importante, parce que généralement, c'est ça qui se passe, c'est que si tu es en sciences sociales puis tu es super, super rigide, puis tu n'es pas capable de dire quelque chose comme j'en ai des collègues free market qui font ça, qui vont dire ben non, les marchés sont super. Moi, j'arrive souvent pour dire non, les marchés font souvent une job de cul. Mais ça ne veut pas dire que l'alternative est meilleure. Ça ne veut pas dire que l'alternative, par contre, est toujours impossible, parce que si je dis qu'il n'est pas meilleur, ben, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative. Est-ce que je crois, par exemple, que l'anarchie peut fonctionner un peu mieux que ce qu'on croit? Ouais, mais non, en même temps. Donc, tu sais, je m'estime comme quelqu'un de super ambivalent sur des grosses réponses dures. Généralement, ce que je sais, c'est sur les marges super petites où est-ce que je suis plus confortable. Comme si tu augmentes le salaire minimum, est-ce que ça va augmenter massivement est-ce que ça va augmenter l'emploi? Très probablement pas. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, ça, si tu me dis que le salaire minimum va... Je sais pas, j'ai pas un bon exemple à partir de ça, mais l'idée, c'est que je peux rester confiant sur une petite marge. Si sur des petites marges, il y a des gens qui sont non seulement hyper confiants sur les petites marges, mais aussi les grandes marges, donc ça va changer la société au complet, ça va tout améliorer, ben, tu as quelqu'un qui est vraiment... qui est plus en amour avec son objectif idéologique qu'avec son objectif, qu'avec l'objectif réel d'essayer d'avancer une compréhension du choix humain. Puis c'est ceux-là que tu devrais prendre avec un super grain de sel. Puis genre, pour donner des images, ça serait genre, à gauche, ce serait selon moi, les gens de l'IRIS qui sont toujours dans une espèce de vision du monde où est-ce qu'il y a un idéal, il faut détruire ce qu'il y a maintenant, et il faut le remplacer par une alternative. Puis à droite, l'équivalent, c'est ceux qui défendent la thèse du grand remplacement ou l'idée que la demographics is destiny ou des choses comme ça à droite, donc, ou même qu'il y a un déterminisme génétique. Ça, c'est super. On sous-estime à quel point c'est populaire à droite, là, le déterminisme génétique. Ça, c'est des groupes que tu devrais absolument pas prendre au sérieux juste parce que la réponse est pour eux plus importante que la question. Puis ça, là, c'est commun dans les critiques que tu vas voir.
Mais il y a un livre qui est très intéressant pour ça. Ça ne parle pas exactement de ce dont tu dis, mais ça en est un peu une conséquence logique. C'est un livre d'un historien qui était en même temps un physicien qui a écrit un livre qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques ». Ce monsieur s'appelait Thomas Kuhn. Et dans ce livre-là, il explique que quand tu étudies l'origine d'à peu près toutes les sciences, tu te rends compte qu'il y a toujours une phase où les sciences sont ce qu'ils appellent pré-paradigmatiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pré-paradigmatique? Ça veut dire qu'il y a des écoles. Donc, si tu remontes, mettons, à la Grèce antique, ben là, la physique, mettons, il y avait des écoles. Bon, les aristotéliciens pensent une affaire, les épicuriens pensent une autre affaire, les platoniciens pensent à une autre affaire. Puis, on ne s'entend pas sur qu'est-ce que c'est que la matière, qu'est-ce que c'est que les atomes, est-ce que ça peut pas aller dans l'infiniment petit ou est-ce qu'on ne peut pas y aller? Et à un moment donné, bien, il arrive la phase paradigmatique où le scientifique, pour exercer comme scientifique, ne peut pas toujours remettre en question l'ensemble des connaissances qui sont acquises. Donc, pour donner un exemple très concret, si tu fais de la physique en 1950, tu ne peux pas arriver en disant « Moi, je suis physicien, mais E égale MC2, là, ça n'existe pas. » Tu es obligé d'admettre certaines connaissances qui font que la discipline comme telle, la science comme telle, avance dans une certaine direction. Puis là, ben, éventuellement, on change de paradigme quand le paradigme devient en crise, comme par exemple la physique de Newton, à un moment donné, devient en crise parce qu'ils ne sont plus capables d'expliquer certaines choses. Puis éventuellement,
ils ne sont pas capables d'expliquer pourquoi la lumière ne se déplace pas à la même vitesse que... Pourquoi il y a voyons, je ne suis pas capable de le dire en français, mais pourquoi le time and space gets warped over certain distances depending on gravity? C'est comme si je le connais en anglais, je ne sais pas comment le dire en français. Mais l'idée, c'est que ça, l'idée de la pomme qui tombait, là, tout le monde a entendu l'espèce d'histoire de Newton. Mm-hmm. La pomme qui tombait, là, c'était révolutionnaire, la manière de concevoir à partir de cette idée-là, comment est-ce que la physique fonctionne. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure, tu sais, que la révolution industrielle se produisait, il y avait des observations qui se faisaient, comme quoi que non, il y a une sorte de non-constance dans le déplacement de la lumière et le temps. On essayait de comprendre la chose, mais si j'essaie de bien résumer la physique là-dessus, c'est à cause de la force de la gravité, la lumière va toujours se déplacer, elle, à une vitesse constante, mais le temps que ça lui prend pour se déplacer sur cette distance-là peut varier à cause de la gravité qui est un peu la distorsion. Donc, je ne sais pas si je le résume bien, là. Un physiciste pourra me ridiculiser, mais il n'y a plus personne qui, depuis qu'on a accepté l'idée d'Einstein sur ça, qui va discuter de la chose. Il n'y a plus personne qui accepte l'espèce de pré-base de ça.
Exact. Et donc, la conséquence logique de ce que Kuhn raconte un peu, même si lui n'est pas très bavard là-dessus dans son livre, c'est que la majorité des sciences sociales, pour ne pas dire l'entièreté des sciences sociales, sont pré-paradigmatiques pour la plupart. Donc, c'est-à-dire que, très concrètement, si vous allez voir un psychologue, dépendamment de s'il est de l'approche behaviorale, cognitivo-comportementale, psychanalytique, vous allez avoir des interprétations différentes.
Complètement différentes.
Complètement différentes des problèmes auxquels vous avez. Alors que
je vais te faire une défense de certaines sciences sociales. En économie, on en a des paradigmes qui sont vraiment acceptés. Ce que les gens aiment critiquer de l'économie, c'est genre, oh, mais regarde, puis ça, il y en a qui disent ce mot-là, puis ça m'énerve, c'est les néoclassiques. Comme si c'était une insulte, ça ne veut rien dire. Là. Mais l'idée de néoclassique, c'est que les gens pensent à la marge. Même l'économiste le plus à gauche au monde accepte ça. En fait, je te dirais que si tu prends un cours d'économie jusqu'à à peu près la fin du bac, tu peux prendre tout ça et être super à gauche. Puis tu peux prendre tout ça et être super à droite. Parce que la seule différence que tu vas avoir, c'est sur le poids empirique ou la pertinence d'une des présomptions méthodologiques, l'importance d'une certaine présomption méthodologique, donc à quel point il y a des asymétries d'information. Est-ce que les asymétries d'information, c'est vraiment un gros coup? Donc, moi, je sais quelque chose, puis je te le cache. On est tous d'accord, ces économistes, là-dessus, que si moi, je sais quelque chose, puis que je peux te le cacher, puis faire un profit de te le cacher, donc te vendre genre un char de merde, puis je sais que c'est un char de merde, puis tu ne peux rien faire après, bien, toi, tu vas dire qu'il y a une faille du marché. Puis on va tous être d'accord pour dire que si c'est le cas, il y a une faille de marché, il n'y a personne qui s'ostine sur cette base-là. Exact. Ce qu'on va débattre, c'est est-ce que vraiment c'est un problème qui se pose? Est-ce que généralement, tu sais, cette l'hypothèse que tu ne peux pas, tu n'as pas recours après, que ça ne compte pas? Non, généralement, les gens ont recours. Mais il y a aussi des mécanismes qui éliminent le mauvais comportement, etc., etc. Donc, je dirais que de toutes les sciences sociales, l'économie, puis... à un très haut niveau, a justement ces espèces de bases qu'il n'y a personne qui va s'ostiner. Ce qu'on s'ostine, c'est là plus où je m'en allais.
Je suis d'accord avec toi. En fait, la raison pour laquelle il n'en parle pas, d'après moi, c'est que, bon, je ne pense pas que Kuhn était un spécialiste d'économie, loin de là. Donc, il y a un propos quand même très général dans le livre. Mais l'idée, je pense, ça nous ramène un peu, c'est pour ça que j'en parlais, c'est que ça nous ramène à ce que tu avais dit, c'est que sachant ça, t'sais, sachant, par exemple, qu'en psychologie, il y a plusieurs écoles de pensée dans la science naturelle ou dans les sciences pures, il n'y a pas d'école de pensée à proprement parler. Il y a des gens, il y a des gens qui pensent plus certaines affaires ou qui sont plus pré-persuadés.
Oui, mais c'est pas. Mais il n'y a personne. Tu prends ce qu'on appelle un kinésien en économie, là, ou un néo-institutionnaliste ou un monétariste, puis ce que tu vas voir, c'est des différences vraiment triviales. Dans l'ensemble du domaine, parce que les deux vont partir du même set d'outils. Ils vont juste dire, tu sais, par exemple, les gens qui débattent sur l'importance des politiques monétaires, ce qu'ils vont dire, c'est est-ce que les prix sont vraiment si rigides que ça? Le débat, c'est est-ce que si les prix sont rigides, ça veut dire que ben, peut-être que la Banque centrale devrait imprimer plus d'argent pour tu sais, garder les prix relativement stables quand il y a une récession. Si les prix ne sont pas rigides, tu n'as pas besoin d'une politique monétaire. Ben, tu sais, notre débat, c'est est-ce que les prix sont rigides? C'est
pas est-ce que. Dans certaines disciplines comme la psychologie, parce que c'est de ça qu'on parlait aujourd'hui, quand on sait ça, quand on sait qu'on est dans un univers où il y a des écoles de pensée, ou disons des approches complètement différentes, Il y a même des. Tu sais, en psychologie, il y en a qui pensent que l'inconscient existe, il y en a d'autres qui pensent que ça n'existe pas. Donc, je veux dire, à un moment donné, on est quand même dans des différences méthodologiques assez fondamentales. Mais sachant ça, ça devrait nous amener à, comme tu disais, à une certaine humilité. Et ça ne veut pas dire que ce que la personne en psychologie sociale raconte sur un phénomène social quelconque est complètement non pertinent. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit conscient qu'on parle peut-être de, je sais pas, moi, 10 % de la réalité, ou on parle peut-être d'une certaine fraction de l'univers des possibles puis qui devrait peut-être être mis en complémentarité avec d'autres types de savoirs.
Oui, ça serait vraiment la meilleure manière de dire. Mais je pense que ça nous ramène à pourquoi les gens critiquent ces affaires-là. Ben, pourquoi est-ce que les gens utilisent ça pour critiquer genre le marché ou whatever? Puis je suis sûr que si on regardait comme il faut, je suis sûr qu'on trouverait des études de gens de droite qui disent que les socialistes ont une maladie mentale ou quelque chose comme ça, puis que ça serait probablement pas vrai. Là. Pour ceux qui ont un peu une histoire du Québec, tu avais une espèce de vieille phrase de Duplessis, c'est le socialiste, c'est une maladie de l'âme. Non, ça n'a aucun rapport. C'est sûr que c'est drôle d'entendre dans la voix de Duplessis un peu. Le socialisme, c'est une maladie de l'âme, avec le vieil accent québécois des années 40-50, mais sûr que je ne vois pas de relation entre ça puis des caractéristiques morales des individus.
Oui, ben c'est comme un peu les nazis qui refusaient qu'en Allemagne, il y ait des cliniques de psychanalyste parce qu'il disait que c'était une science juive. C'est un peu ce genre d'argument-là dont tu parles. Là, que dans le fond, il y aurait une idéologie ou une approche qui est invalidée pour des raisons génétiques ou je ne sais pas quoi, d'ordre racial ou quoi que ce soit.
Ce qui serait scientifiquement ridicule. Là. Il n'y a pas de...
Ben non, mais je veux dire, si le vaudou, ce n'est pas une technique médicale reconnue, ce n'est pas parce que c'était des Haïtiens qui le pratiquaient, c'est qu'il n'y a aucun fondement scientifique là-dedans. Là.
Exactement, c'est super bien dit. D'ailleurs, là, peut-être que je vais faire un changement de sujet, mais... Il y avait un de mes collègues qui m'avait montré ça, puis j'avais trouvé que c'était peut-être la meilleure manière de résumer. C'était toutes les espèces de croyances comme l'astrologie ou les bâtons qui disent s'il y a de l'eau.
Les sourcils.
Des choses comme ça. Mais il avait écrit, c'est « If it was true okay, ». Donc, la première colonne, c'est « Si c'était vrai, qu'est-ce que l'industrie privée ferait? » Right? Puis après ça, c'est la deuxième colonne, c'est « Est-ce que l'industrie le fait? » Et là, tu avais, par exemple, l'astrologie. Bien, les marchés financiers utiliseraient ça pour faire des prédictions. Est-ce que les entreprises privées le font? Non. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de profit à faire. Parce que si ça marcherait, crois-moi, ils sauteraient dessus. Si, par exemple, les espèces de sorciers pour l'eau, est-ce que ça fonctionnerait? Bien, tu pourrais peut-être utiliser ça pour faire de l'exploration minière ou de l'exploration pétrolière. Est-ce que les compagnies font ça? Non. Donc, généralement, en fait, ça, l'idée, c'est que j'avais l'air de faire du coq à l'âne, mais peut-être ça me ramène un peu... le but, c'était de me ramener vers la question, c'est d'un peu de c'est quoi, tu sais, les sciences. Puis je pense qu'on pourrait conclure après cette petite discussion-là. Mm-hmm. C'est, je pense que le marché des sciences est super important parce que les gens pensent que c'est comme que les chercheurs restent dans une bulle, puis que dans la bulle, on produit des connaissances absolues, des connaissances pures que après ça, la société se sert. Bullshit. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on est dans notre bulle, mais c'est la société qui réussit à percer un peu au travers et qui nous indique c'est vers quoi on a des problèmes à régler. Donc, ce n'est pas comme si on avait découvert les lois de la thermodynamique, puis après ça, la machine à vapeur. On a découvert la machine à vapeur et les lois de la thermodynamique. Des problèmes qu'on a observés nous ont dit que peut-être la recherche sur ça, c'est pertinent, parce que c'est ce puzzle-là qu'on n'est pas capable de solutionner. Pas dire qu'après ça, il n'y a pas quelqu'un qui découvre une autre utilité de ma découverte, mais le fait que je décide de dépasser du temps et des ressources sur telle activité scientifique, c'est parce que la société m'a informé par des mécanismes de prix, par de la recherche en entreprise, peu importe c'est quoi, qu'il y a une profitabilité à allouer des ressources à cette finalité-là. Donc, quand les gens disent un peu... puis ça me ramènerait un peu aussi à ma critique des psychologies sociales, c'est que si tu en viens à avoir un marché de la recherche scientifique, ce qui va être pertinent, ça va être déterminé par le profit des chercheurs à toute fin pratique, mais le profit peut être distorsionné par des règles politiques, parce que si, mettons, tu en viens à donner des subventions, disons, à certains types de recherches ou des récompenses politiques à certains types de résultats, Mais là, tu es en train de distorsionner la structure de la science vers ce qui est politiquement favorable et non pas ce qui est nécessairement sociétalement favorable. Puis je pense que ça expliquerait pourquoi psychosocial demeure un domaine super important en dépit de la crise de réplicabilité que c'est souvent utilisé dans des débats politiques par des journalistes qui aiment ça. Par exemple, il y avait Jane Meyer aux États-Unis qui est une des plus grandes clowns du monde journalistique en termes de substance. Ah non, mais vraiment, là, c'est la substance. À un moment donné, je me souviens d'un documentaire où elle passait et elle disait il n'y a pas de mouvement de grassroots qui veut éliminer le ministère de l'Environnement. Ça n'existe pas. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est des gros groupes corporatifs qui aiment ça abuser la petite personne en lui faisant croire des choses. Je suis comme « wow ». Puis là, c'était une étude de psycho. Genre une étude de psychosociale. Mais la seule manière que ça garde ce poids-là dans les débats publics, c'est parce qu'on politicise comme 80% de notre existence, qu'en fait, dernièrement, le seul répit qu'on a de la politique, c'est dans 60 minutes de hockey qu'on a à la télé ou est-ce que pendant les finales, ben, on a 60 minutes sans politique. C'est comme une sorte de petit monde tranquille où est-ce que là, nos relations sont vraiment des relations non politisées. Mais si tu en venais à dépolitiser l'existence, probablement une plus grande portion de nos existences, probablement qu'on mettrait moins de poids sur les résultats de ce domaine-là, probablement qu'il y aurait moins de chercheurs qui s'impliqueraient dans ce domaine-là. Soit parce que maintenant, ça ne vaut plus la peine de faire un gotcha, parce qu'on s'en fout un peu du résultat. C'est-à-dire que ce n'est pas important, c'est de dire ah, regarde, j'ai pwned the left, j'ai pwned the right, c'est fini, c'est plus du tout important. Ou bien tout simplement qu'il y a juste pas assez d'argent à faire là-dedans, à faire cet effort-là.
Oui. Comme complément un peu de cette discussion-là pour un prochain podcast, ça serait intéressant de voir s'il y a des études sur qui sont disponibles, sur, parce que c'est un peu une intuition que j'ai comme ça, là, mais je ne sais pas s'il y a un fondement pratique à ça. Tu as fait allusion à certaines pseudo-sciences ou disons certaines croyances un peu irrationnelles. Je ne sais pas s'il y a un je ne sais pas si ça a déjà été mesuré dans des études scientifiques, ça, si dans les sociétés où il y avait, disons, un abandon progressif ou, disons, assez marqué d'une religion très dominante, comme par exemple le protestantisme ou le catholicisme, si on voyait foisonner ce genre de croyances-là. Moi, en fait, j'ai eu depuis très longtemps, j'ai en moi cette idée-là que en fait, tu peux, ben, pour reprendre une formulation qu'on utilise souvent au Québec, tu peux sortir les gens de l'Église, mais tu peux pas sortir l'Église
des gens.
J'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de transfert de foi vers des. Ben, Mathieu Bocoté appelle ça les nouvelles religions urbaines, là, c'est-à-dire le véganisme et toutes sortes de choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont une espèce de besoin d'ordre métaphysique ou disons d'ordre de croyance. Puis j'ai un feeling que dans les sociétés entre guillemets laïques et athées dans lesquelles on vit de plus en plus, il y a une espèce de retour du spirituel, mais par la porte d'en arrière, là, de manière plus détournée. Là. Guérir ses cancers avec des jus de lait, des jus de légumes crus, puis ce genre de patente-là. Là, on dirait que il y a une grosse mode de pseudo-science, puis de croyance, puis c'est répandu dans beaucoup de En fait, beaucoup, beaucoup de gens adhèrent plus ou moins à certaines de ces choses-là. Je ne sais pas si c'est mesurable, ça aussi. Il y a quelque chose qui a été fait là-dessus.
Je te dirais que mon instinct, c'est de te répondre oui puis non. Non, dans le sens que je suis pas mal convaincu que les gens ont toujours eu... Tu peux croire une multitude de choses en même temps. Donc, je peux très bien imaginer quelqu'un qui croit au pouvoir restauratif des cristaux en même temps qu'il est membre de l'Église catholique. Donc, je ne vois pas ça comme étant deux choses mutuellement exclusives.
Non, mais par sauf que aujourd'hui, il y a ce nouveau phénomène-là que celui qui va regarder le catholique comme étant pratiquement un malade mental, mais lui, il prend des capsules d'extrait de pancréas de crevette ou je ne sais pas trop quelle connerie. Il y a des bracelets de noisetiers. J'en connais des gens de même. Quelqu'un qui va à l'église, c'est un abruti, mais lui, il s'énergise en faisant des trucs détox ou je ne sais pas quoi. Là.
Ouais, je ne suis pas convaincu même que c'est mutuellement exclusif, que je peux imaginer des gens qui étaient hyper croyants, mais qui s'imaginaient que leur voisin qui est catholique, parce qu'il était protestant, que lui était con parce qu'il croyait à cette version-là de l'arrivée du Christ. Donc, lui, c'est un cave. Donc, je suis sûr que, puis que les deux pouvaient croire des choses absolument absurdes sur l'astrologie, des choses comme ça. Par contre, je te dirais que le oui, quand je t'ai dit oui puis non, oui, parce que je me rappelle vaguement deux séries de travaux des années 60-70 qui ont commencé sur la religion comme un choix rationnel. Donc, c'est-à-dire que le membership, tu es membre d'un groupe quand tu joins une religion, donc tu as quand même une sorte d'organisation qui se produit. Il faut que tu ailles, faut que tu produises quelque chose. Donc, il y a comme un article super connu par Lawrence Yannacone qui s'appelle Why Are Strict Churches So Strong? Donc, tu demandes aux croyants de faire des activités très coûteuses pour eux personnellement. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce que tu joindrais un groupe? Parce que tu essaies d'éliminer des gens qui ne vont pas participer à la vie de groupe. Puis parce que la vie de groupe produit, par exemple, de l'assurance quand tu es sur ton. Tu as une malchance, donc on va venir t'aider. Si ta maison brûle, on vient t'aider à reconstruire. Si tu as des difficultés financières, on va t'aider avec ton enfant, on va faire X et Y. Donc, mais pour joindre ce groupe-là, il faut que tout le monde participe pour pas que tu aies un free rider.
Ouais.
Ben, l'idée d'imposer aux gens une sorte de coût d'entrée qui est tellement important, ça fait en sorte d'éliminer ceux qui sont marginalement moins susceptibles de participer à la vie de groupe. Donc, tu essaies un peu de faire du triage à toute fin pratique. Mais ce gars-là, Lawrence Yannacone, mais aussi un autre qui s'appelait Rodney Stark, avait vraiment étudié la perspective du choix rationnel, comment est-ce que les gens font des choix de rejoindre des groupes religieux. Et il expliquait une des choses, qu'il y avait beaucoup de sectes qui émergeaient aux États-Unis dans les années 50, 60, 70, et qu'ils ciblaient généralement des gens qui n'étaient pas très religieux ou qui avaient quitté la religion parce qu'ils étaient marginalement plus susceptibles de chercher la connexion avec un autre groupe différent. Donc, je te dirais que je serais prêt à accepter un peu l'idée qu'on substitue, peut-être, on a l'air de substituer, donc un peu dans la logique de Mathieu Bock-Côté quand il dit les trucs, les religions urbaines. Je suis sûr que si je peux l'expliquer dans un choix rationnel, donc tu dis que tu as quitté un groupe, ce groupe-là n'existe plus pour toi, mais tu cherches un autre groupe, donc un groupe avec des gens avec qui tu peux interagir, là, tu te joins à ça, mais tu remarqueras que la grosse différence, puis c'est ça généralement en fait qui me diverge avec Mathieu Bock-Côté, que j'admire quand même beaucoup pour son intellect. J'avais toujours une petite tension avec lui dans le passé, mais avec le temps, j'ai gagné une grande appréciation de sa profondeur et j'ai réalisé que la seule différence entre moi et lui, c'est vraiment le rôle de l'individu dans la collectivité, où est-ce que lui met peut-être part plus de la perspective holiste, donc tu pars du groupe vers l'individu, alors que moi, je pars tout le temps de l'individu, puis c'est non négociable. Mais l'idée que tu cherches un groupe auquel tu veux avoir un sentiment d'appartenance, mais que tu veux participer, tu veux des interactions, qui est le propre de l'activité humaine, mais dans ce cas-là, je peux expliquer peut-être pourquoi tu en as substitué une affaire par un autre, mais je ne mettrais pas l'emphase sur le fait qu'on essayait de faire un truc culturel. Je pense que c'est plus un accident de quel groupe, quel type de croyances sont les plus cheap à produire puis permettre d'avoir des groupes relativement stables, étant donné l'environnement dans lequel les gens évoluent. Donc, ça serait peut-être la manière dont je le dirais qui serait différente. C'est pour ça que quand je te disais non, c'était ce que je voulais dire, mais oui, dans le sens. Si tu peux l'expliquer dans une analyse de choix rationnel, OK, d'accord.
Mais, en même temps, on terminera là-dessus. Il y a un côté qui est un peu étrange là-dedans parce que aujourd'hui, mettons, tu peux être libre de t'associer à n'importe quel type de groupe, puis il n'est pas obligé d'avoir d'irrationalité ou disons de spiritualité là-dedans. T'sais, quelqu'un peut appartenir à, je ne sais pas moi, un cercle de gamers ou à toutes sortes d'un club d'échecs ou je ne sais pas quoi, mais le côté spirituel ou le côté un peu. Qui donne un sens à la vie, là, c'est quand même très, très populaire, même dans une société où les gens ne vont plus vraiment à l'église puis ils se définissent comme étant non-croyants. Mais quand tu as juste à demander à n'importe quel libraire, il va te le dire. C'est pas pour rien qu'ils mettent les trucs de psychopop, là, le bouillon de poulet pour l'âme, puis je ne sais plus trop quelle niaiserie, dans les devantures de librairie. C'est que c'est les livres de très loin les plus vendus, à peut-être exception les livres de cuisine. Donc, devenir la personne que tu as toujours voulu être ou, je ne sais pas moi, le bonheur expliqué à ma grand-mère, ce genre de truc-là qui, à toute fin pratique, est toujours un peu une forme de psychopop à borderline religieuse. Là. Souvent, quand tu lis entre les branches, on n'est jamais trop loin du livre Le Secret. Là. Mais ça, il y a énormément de gens qui se sentent attirés par ça. Là. Puis ça dénote quelque chose. Là. Ça dénote qu'il y a... un genre d'attirance, je dirais pas, je ne sais pas si on pourrait dire naturel, mais il y a un genre d'attirance vers les trucs spirituels, là, que les gens soient associés à une religion ou pas.
Oui, ben je ferais juste un. Je ne sais pas comment répondre à ça, intelligemment. Je dirais que la chose que j'ai toujours un malaise, par contre, c'est le mot irrationalité. Parce que la manière dont les gens définissent irrationalité, c'est comme si tu disais les gens font des erreurs, donc ils étaient caves, donc irrationnels. Uh-huh. Puis, j'accepte pas cette définition-là d'irrationalité. Pour irrationnel, ça veut dire que, premièrement, la définition permet aux gens de faire des erreurs. Non, c'est-à-dire que dans le moment présent, étant donné le coût de l'information, ça valait pas la peine. C'était peut-être trop coûteux de considérer l'information. Puis, c'est en faisant l'erreur que tu apprends. Donc, tu peux avoir un processus réitératif où tu apprends par l'erreur. Donc, d'une part, c'est bon, ma manière de voir le monde permet l'erreur. Mais aussi, ça permet des erreurs qui persistent s'ils ne sont pas particulièrement coûteuses. Donc, tu sais, des gens qui croient des choses stupides. Donc, stupides, c'est pas vrai. Je ne devrais pas dire stupides, c'est pas correct.
Fausses.
Ben, je pense que les cristaux réjuvénateurs. Tabarnouche, ça n'a pas été facile, ben, celui-là.
C'est parce qu'il y en a tellement d'exemples, là, l'homéopathie, la voyance.
Oui, peu importe. Veux,
toutes ces choses-là, je veux dire, il n'y a quand même aucun fondement scientifique à ça. Là.
C'est ça. Ben, mais l'affaire, c'est que je ne veux pas dire stupide parce que ça implique un jugement de valeur. Puis comme économiste, je ne suis jamais fan de faire des gros jugements de valeur. Mmh. Fait que je vais arrêter d'utiliser le mot stupide, je vais dire comme faux. Je pense que c'est plus approprié de dire ça que c'est pas vrai, ça ne tient pas. Mais c'est quoi le coût exactement? Si la personne décide de consommer, disons, les services d'un astrologue pour savoir c'est quoi sa destinée demain, je comprends que techniquement, elle gaspille de l'argent, mais ce n'est pas vrai que l'effet placebo n'a aucune valeur.
Non, exactement.
Je te dirais que si le coût pour la personne est tellement petit relativement au bénéfice d'une sorte de satisfaction, d'un sentiment de contrôle, est-ce que c'est nocif? De ma perspective, moi, je ne dépenserais pas là-dessus. Mais si cette personne-là veut le faire, cette personne-là a sûrement des jugements sur ce que moi je fais, puis c'est tout à fait normal, elle ne voudrait pas dépenser sur X ou Y. Par exemple, les gens diraient peut-être que je passe trop de temps à faire des jeux vidéo, puis ils ont peut-être probablement raison. Je pourrais être en train d'écrire plus d'articles au lieu de gamer à Battlefront, mais l'idée ici, c'est que la personne fait un choix. Puis des fois, puis en fait, il y a un économiste qui s'appelle Brian Kaplan qui transmet un peu le principe que j'allais dire en parlant d'irrationalité rationnelle. Donc, il prend la définition que les gens ont d'irrationalité, mais il dit que ça, c'est rationnel, en fait.
Ouais.
Parce que si tu as le coût d'une croyance...
Un peu ce que Miguet dit aussi.
Oui, exactement. Mais si, mettons, Jean-Luc Miguet, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment, selon moi, un des plus grands économistes québécois qui est sous-apprécié. Si j'ai aucun coût, disons, quand je vais voter, de croire des choses fausses quand je vote, ou de voter sur des prémisses qui sont erronées. Ben, c'est quoi mon coût exactement? J'ai une croyance qui me fait du bien, qui met un ordre dans mon univers, mais je ne paye pas le coût de cette croyance-là. Elle n'a aucun effet sur moi parce qu'à la marge, quand je vote, ça ne change absolument rien. Mais si, mettons, un jour, le coût de cette croyance-là augmenterait, est-ce que je la changerais? Quand tu fais réaliser aux gens le coût, puis ça, c'est le meilleur exemple de ça, je pense qu'on pourrait peut-être conclure là-dessus. Mm-hmm. Il y a mon étude préférée de tous les temps. Bruce Greenwood avait un article qui testait la réponse de gens hyper militants, démocrates et républicains aux États-Unis, sur des questions de fait sur le chômage et l'inflation. Mm-hmm. Et sans offre de paiement, les gens répondaient ce que tu t'attends un peu selon les lignes de parti. Les démocrates répondaient que sous Reagan, le chômage était très élevé, que l'inflation était super élevée et qu'ils augmentaient. Les républicains disaient que sous Bill Clinton, c'était atroce. Mais Greenwood, ce qu'il fait, c'est qu'il dit on a répété l'expérience avec les mêmes personnes. Je ne suis pas sûr si c'est un autre groupe, mais il offrait un paiement pour une opinion différente. Et là, l'arrivée du paiement fait en sorte que les gens disent exactement ce qu'ils savent être vrai. Ou qui sont peut-être, ou qui limitent en fait l'importance qu'ils donnent à leur appréciation des faits. Donc, tu as comme un changement d'opinion. Mais là, ce que je viens de te dire, c'est que la personne, quand tu lui mets un coup, parce que tu sacrifies, disons, le 20$ qui t'est donné, tu es là, peut-être. Donc, je change, tu sais, mon irrationalité était tout à fait rationnelle parce que ce que je suis en train de choisir, c'était que le bénéfice de dire ce qui est vrai était faible relativement au sentiment d'appartenance au groupe. Mais pour 20$, alors qu'aucun membre du groupe m'observe, ben écoute, 20$ vaut plus que le revenu psychique que j'obtiens de me sentir membre du groupe.
Ouais, ouais, ouais.
Puis ça, c'est une preuve par falsification en passant, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé un contexte. Puis si vraiment, mettons, les gens étaient parfaitement immuables dans leurs croyances, ce que j'aurais dû voir, c'est que peu importe le montant que je donne, ils ne devraient pas changer leurs opinions. Mais si en changeant une condition d'expérience, les gens changent leur opinion, mais ça veut dire que ma falsification est valide. C'est-à-dire que j'ai falsifié celle que les gens sont vraiment immuables. Fait que tu sais, je te dirais que je ne mets pas... c'est une des affaires qui me fait dire que les explications d'irrationalité, c'est...
Ouais. À creuser, je pense. Fait que, on se reparle la semaine prochaine, tout le monde, puis probablement qu'Yann va être là cette fois-là.
Ouais, je pense qu'on était trop philo parce que Yann n'était pas là. Yann nous aurait remis.
Ouais, c'est ça. Yann nous aurait ramené.
Fait qu'on va excuser nos auditeurs de notre comportement. Bon, si les gens ont plus aimé, si vous avez vraiment aimé, faites plus de likes, comme ça, Yann va nous laisser faire ce que vous aimez.
Ben oui, c'est ça. Yann va nous laisser déraper. C'est super. Ciao.
Ciao.